Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qui l'engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'Iran blâme l'inaction mondiale et le silence face aux agressions intensifiées d'Israël contre les Palestiniens. L'Iran blâme l'inaction mondiale, le silence pour les raids intensifiés d'Israël. L'agression contre la mosquée d'Al-Aqsa raccourcira la vie du régime d'occupation d'Israël, a annoncé le Hamas. Et l'expulsion dans une mosquée chiite à Mazar-e-Sharif en Afghanistan. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Dans des lettres séparées adressées au secrétaire général de l'ONU, au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et au ministre des Affaires étrangères des pays musulmans, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les doubles standards et le silence de certains gouvernements et d'organisations internationales ont encouragé le régime d'apartheid d'Israël à intensifier ses actes d'agression contre les Palestiniens et à violer leurs droits. Il a également exprimé sa profonde préoccupation face aux raids du régime de Tel Aviv dans l'enceinte de la mosquée d'Al-Aqsa et à la recrudescence des attaques contre les Palestiniens pendant le mois de jeûne sacré du Ramadan. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Les tensions dans les territoires occupés s'aggravent heure en heure, les forces israéliennes intensifiant leurs atrocités contre les fidèles à la mosquée Al-Aqsa. Au moins 20 Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée, assiégée par les forces israéliennes. Les victimes ont été blessés à la tête et au cou. Les troupes du régime sioniste ont intensifié leurs attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris les fidèles qui se rassemblent à la mosquée Al-Aqsa pendant le mois de jeûne du Ramadan. Pendant ce temps, les Palestiniens ont lancé des opérations pour contrer la violence israélienne. Au cours du mois dernier, près de 20 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie dans une série d'attaques de représailles et d'affrontements avec les forces israéliennes. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a mis en garde Israël contre toute tentative de changer le statut de la mosquée Al-Aqsa. Si vous pensez qu'en attaquant et occupant la mosquée Al-Aqsa, vous pouvez en changer l'identité islamique, « vous vivez dans un délire total », a averti jeudi le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Ismaïl Haniyeh. Selon le Centre d'information palestinien, jeudi 21 avril, Ismaïl Haniyeh a déclaré dans un communiqué de presse, en réaction aux récentes évolutions liées à la mosquée d'Al-Aqsa, que l'agression des sionistes occupants intensifiera les tensions et les affrontements. En Afghanistan, une explosion a eu lieu dans la mosquée de Sedokan, la plus grande et la plus ancienne mosquée chiite au cœur de Mazar-e-Sharif, en pleine prière de midi, tuant et blessant de nombreuses personnes. Cette explosion a tué et blessé de nombreuses personnes. Les blessés ont été transférés à l'hôpital selon des sources hospitalières. Rien n'a encore été divulgué sur la cause de l'incident. Les forces de sécurité des talibans ont bloqué les routes menant à la mosquée. Le président français Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen se sont affrontés dans leur seul débat télévisé sur les foulards des femmes musulmanes, les liens avec la Russie et l'économie. Marine Le Pen a confirmé qu'elle maintenait son idée controversée d'interdire le foulard, qu'elle a qualifié d'uniforme imposé par les islamistes. Emmanuel Macron s'est opposé à l'amalgame et a déclaré que la politique de Marine Le Pen conduirait à une guerre civile en France qui compte la plus grande population musulmane d'Europe occidentale et serait une trahison des valeurs de la République. Le débat a été chaud sur les relations avec la Russie et la politique économique. Emmanuel Macron a accusé mercredi Marine Le Pen de dépendre du pouvoir russe et de M. Poutine pour avoir contracté un prêt auprès d'une banque russe. Le président français faisait référence aux près de 9 millions d'euros que le parti de Mme Le Pen a reçu en 2014 de la première banque tchéco-russe pour la campagne électorale présidentielle. Le prêt n'est toujours pas remboursé et après l'effondrement de la banque en 2016, il est désormais dû à une société liée à l'armée russe. Certains sondages indiquent que Macron bénéficie d'une avance de 10 points sur Mme Le Pen au second tour. Reste à savoir si les indécis et des abstentions pourraient faire basculer les chiffres. La Russie a testé avec succès un nouveau missile balistique intercontinental à capacité nucléaire qui, selon le président Vladimir Poutine, inciterait les ennemis de Moscou à réfléchir à deux fois à une époque de tension accrue avec l'Occident au sujet de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi que le missile Sarmat a été tiré pour la première fois pour toucher ses cibles désignées à près de 6000 km dans le Pacifique. Poutine a félicité l'armée pour le lancement réussi du Sarmat dans des propos télévisés, le qualifiant de grand événement significatif pour l'industrie de la défense russe. Le président Poutine a déclaré « Cette arme vraiment unique renforcera le potentiel de combat de nos forces armées, assurera de manière fiable la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures et fournira matière à réflexion à ceux qui, dans le feu d'une rhétorique agressive frénétique, tentent de menacer notre pays. » Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. La République islamique d'Iran blâme l'inaction mondiale et le silence face aux agressions intensifiées d'Israël contre les Palestiniens. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré mercredi 20 avril 2022 que les doubles standards et le silence de certains gouvernements et des organisations internationales ont encouragé le régime d'apartheid d'Israël à intensifier ses actes d'agression contre les Palestiniens et à violer leurs droits. Dans des lettres séparées adressées mercredi au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et au ministre des Affaires étrangères des pays musulmans, le chef de la diplomatie iranienne a exprimé sa profonde inquiétude face aux agressions du régime de Tel Aviv à la mosquée d'Al-Aqsa et à la recrudescence des attentats contre les Palestiniens pendant le mois sacré de jeûne du Ramadan. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que toute profanation des lieux saints vénérés par les musulmans, ainsi que le fait de vexer leurs sentiments, était blâmable et inacceptable. Les tensions ont éclaté ces derniers jours après que la police israélienne a fait une descente dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Au moins 170 Palestiniens ont été blessés et des centaines d'autres ont été arrêtés depuis que les forces israéliennes ont lancé des incursions dans l'enceinte de la mosquée pour la quatrième journée consécutive, mercredi 20 avril. Pendant ce temps, des centaines de Palestiniens ont protesté contre l'entrée par effraction des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, scandant des slogans et appelant au soutien arabe et international aux fidèles de la mosquée Al-Aqsa et ceux des territoires occupés confrontés à une intensification de la violence israélienne contre les Palestiniens. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré dans ses lettres que la récente agression israélienne atteste clairement de la politique du régime sioniste visant à modifier l'identité de la ville de Rots. Dans ses lettres, le chef de la diplomatie iranienne a écrit « Conformément au droit international, la République islamique d'Iran a mis un soutien indéfectible à la lutte de libération et à la résistance du peuple palestinien visant à la pleine réalisation de ses droits humains parmi les piliers de ses politiques étrangères. » Hossein Amir Abdollahian a condamné les violations du régime sioniste dans les termes les plus forts. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également appelé à une action immédiate et ferme de la communauté internationale et de l'Organisation des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité de cette organisation, pour soutenir les Palestiniens et à exhorter les Nations Unies à réagir immédiatement aux récents développements dans les territoires occupés palestiniens. L'établissement d'une paix durable et juste dans la région n'est possible que si l'occupation de la Palestine prend fin, que les réfugiés palestiniens retournent dans leur patrie et qu'un État palestinien indépendant soit établi avec la ville de Rots comme capitale, a conclu le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a dénoncé les attaques du régime sioniste contre les fidèles palestiniens dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Malheureusement, nous avons été témoins de la transgression des sionistes à la mosquée d'Al-Aqsa pendant le mois béni du Ramadan, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. C'était mardi lors d'un appel téléphonique avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Marzouk. Nous espérons, a souligné le chef de la diplomatie iranienne, que la nation palestinienne obtiendra ses droits historiques avec le soutien des pays et nations musulmans. Pour rappel, plus de 150 fidèles palestiniens ont été blessés. C'était samedi lorsque les forces israéliennes ont pris d'assaut l'enceinte de la ville sainte occupée de la vieille ville d'Al-Quds. Dans le même temps, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires des occupés palestiniens depuis 1977 a présenté au Conseil des droits de l'homme un rapport dans lequel il conclut que la situation dans les territoires palestiniens occupés s'apparente à un apartheid. Dans le même temps, le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué, c'était lundi, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël pour lui signifier la protestation des autorités jordaniennes et exiger la cessation immédiate de violations contre la mosquée d'Al-Aqsa et ses fidèles. Ajouté à cela, en ce qui concerne la prise de position de la Jordanie est un pays qui a conclu l'accord de paix avec le régime israélien, la Jordanie qui a œuvré pour la normalisation des accords de paix avec le régime israélien, et là, en fait, ce pays aussi en est arrivé à cette conclusion de dénoncer violemment cette agression de la mosquée d'Al-Aqsa par les militaires israéliens. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission un juriste français spécialiste des questions internationales depuis Damas. Il s'agit de Maître Arnon Develé. Maître Develé, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour.
Et l'autre invité de la mission d'aujourd'hui est un analyste politique français spécialiste des questions internationales qui était avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous vos auditeurs et à
Monsieur Dortiguier, est-ce que vous m'entendez?
Je l'entends très bien, oui.
Très bien. Merci beaucoup, M. Dortiguier, d'avoir accepté notre invitation. Comme première question, M. Dortiguier, comment expliquez-vous cette agression par les militaires des sionistes de la mosquée d'Al-Aqsa et cette condamnation qui s'en est suivie, M. Dortiguier? Il y avait plusieurs pays qui ont condamné ces actes de provocation de la part du régime israélien, M. Dortiguier.
Eh bien, je crois que israélienne ne tente pas un événement particulier et permanent dans, disons, qui est des colons en même de cet état sur des hommes qui se prétendent discuter. La plus grande partie de la formation, comment dirais-je, anciennement, je dirais pas au marxisme, des idéologies sont, mais est une pour juger et même politique en Israël. Heureusement, de nouveau. Par contre, c'est à dire que seuls musulmans.
nous avons un souci, en fait, un souci technique de liaison avec vous, plus précisément avec Toulouse. Nos collègues à la régie vont tenter de vous rappeler et de, si vous voulez, de régler ce souci technique. En attendant, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre Arnaud Develet. Arnaud Develet, je viens de lancer le sujet. Vous, comment expliquez-vous, en fait, de ce qui se passe actuellement entre Palestiniens et régime israélien, s'il vous plaît?
Oui, vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement. La parole est à vous, Maître Develet. Je vous en prie, allez-y.
Oui, dans ce sens-là, j'aimerais faire écho effectivement aux remarques, à l'introduction du professeur Dortiguet. Cet événement en soi n'est malheureusement pas nouveau, mais je crois qu'il faut avoir en tête aussi une vision d'analyse au travers d'un prisme qui voit la mosquée Al-Aqsa être vraiment le cœur nucléaire du conflit dans cette partie de la région. Partant du principe que les Israéliens ont une eschatologie qui prévoit quelque part la construction de ce qu'ils appellent le troisième temple. Et il se trouve que la location de la construction de ce troisième temple se trouve être, selon eux en tout cas, exactement à l'emplacement du troisième site le plus sacré dans l'islam. Donc fatalement, lorsque les hasards du calendrier voient que lors du mois du Ramadan et donc des prières qui sont forcément amenées à y prendre place, vous avez en même temps la fête religieuse d'Ikpourim, et que donc dans ce contexte-là, les extrémistes religieux israéliens mettre un point d'honneur à vouloir investir le lieu pour y performer leur propre rite religieux. Vous avez donc l'armée israélienne qui, si je puis dire, leur sert de bélier pour évincer les fidèles musulmans. Et quelque part, c'est plus qu'un, comment dirais-je, une lutte politique, mais ça devient une lutte quasi religieuse. Et quand on comprend l'importance des partis religieux les plus extrémistes dans les attelages successifs que l'on a pu voir à la tête de l'État sioniste, toutes ces provocations et ces outrances prennent toute leur signification.
Mmh. Monsieur Dortiguet, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît?
Je vous entends très très bien, Monsieur Dortiguet, oui.
Je vous en prie, la parole est à vous, Monsieur Dortiguet.
Eh bien, je dirais que je relèverai de ce que dit Maître Develet que la mosquée Al-Aqsa, ces manifestations, disons, se déroulent pendant la fête des Pourim, c'est-à-dire une fête religieuse juive qui est dite, la Bible, contre les Persans, contre les Iraniens. Et ceci doit être souligné. La fameuse histoire de Mardoké, qui sont d'ailleurs enterrés, qui sont inhumés, je dois le souligner, dans la ville de Hamadan. Ceci étant dit, le sionisme se fonde sur une superstition du fait que tous les Juifs doivent retourner en Israël, etc. Bon, superstition à laquelle il essaie de croire. Mais en fait, la plupart des citoyens ne suivent pas ces gens-là. Et ils les tolèrent, voyez-vous. Ça donne une sorte de légitimation spirituelle aux yeux du monde. Mais en réalité, vous savez, l'État sioniste est un état de passage. Les sionistes y vont, les sionistes s'en vont, ils sont remplacés, etc. Ce qu'il y a, c'est que ce qui manque à cela, pour que la justice revienne, c'est une concertation, nous le redisons, des pays musulmans, voyez-vous. Et ceci, malheureusement, ne s'est pas produit depuis 48-49, depuis qu'Israël a été, reçu aux Nations Unies, avec l'aval, évidemment, des deux grandes puissances de l'époque, la puissance de Staline et la puissance des Américains.
Pourquoi cela ne s'est pas produit, M. Dortiguet, en fait, depuis la création, comme vous le dites, en fait, du régime des Israéliens? À l'époque, on a dit que voilà, il faut mettre en place deux États, régime israélien et État palestinien. Pourquoi cela ne s'est pas produit, M. Dortiguet, jusqu'à présent?
À mon avis, par jalousie, à l'intérieur même du monde musulman, jalousie des États arabes entre eux, la volonté de se plier aux injonctions de l'Angleterre ou des États-Unis, etc. Et je crois que ce manque de sens patriotique, de sens communautaire, disons plutôt, dans le monde musulman, est à mon sens la véritable cause de l'état malheureux, continu, si vous voulez, des Palestiniens. Vous avez également eu aussi une grave faute politique, c'est celle d'opposer deux mouvements politiques, le Hamas, le Fatah et l'OLP. Vous voyez ? Alors, ce manque de cohésion, il s'est surtout manifesté pendant l'invasion israélienne du Liban, et à mon avis, porte tort à la cause palestinienne, car elle n'est pas claire, elle n'est pas, disons, comment dirais-je, structurée, voyez-vous. Et je dirais que si j'ai, à mon âge, disons, une remarque à faire à l'encontre des Palestiniens, envers les Palestiniens, c'est que ceci, en Europe en particulier, n'explique pas réellement le fond de la question. Notre jeunesse ici, enfin, disons, nos élites, ignorent tout, à peu près tout, de l'histoire palestinienne. Ils croient que c'est un résultat de la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est un résultat de la Première Guerre mondiale, de la déclaration de Balfour. Je m'aperçois que dans les lycées, par exemple, ici, ou dans les universités, les jeunes gens l'ignorent complètement. Et je parle non seulement des jeunes gens d'origine française, et puis, ou de souche, français de souche, comme on dit, mais également de la population immigrée. C'est sur cette ignorance que se poursuit justement l'insolence des sionistes.
Maître de Velay, je viens en fait d'évoquer tout à l'heure la prise de position de Jordanie. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël. Et c'était dimanche, le roi d'Abdallah de Jordanie a appelé Israël à respecter le statut historique et légal de la mosquée d'Al-Aqsa et à mettre fin à ces mesures illégales et provocatrices. Mais la question qui se pose, Maître de Velay, en fait, est de savoir si, en fait, ces actes de provocation d'Israël ne sont pas plutôt encouragés par ces prises de position des pays tels que la Jordanie, qui œuvre pour la normalisation des relations avec Israël, qui ont des relations ouvertes et cachées avec le régime israélien. À cela s'ajoutent également des agissements qui avaient été, si vous voulez, effectués dans ce sens par certains autres régimes de la région. Je parle par exemple des Émirats Arabes Unis, et je parle, si vous voulez, de Bahreïn, même de l'Arabie Saoudite, et de plus loin, je parle par exemple du Maroc, Maître de Velay.
Oui, effectivement. Le fait de condamner ou de faire des proclamations et autres déclarations officielles enjoignant l'entité sioniste à respecter la dignité des fidèles, si elle n'est pas suivie d'actions concrètes sur la durée, elle ne s'inscrit pas dans une stratégie articulée et coordonnée avec les autres gouvernements, avec l'idée partagée de vraiment jouer la carte de la solidarité, comme le disait le professeur d'Ortiguet, confessionnel, et quand je dis confessionnel, je parle au sens large et non pas effectivement privilégier des alliances ponctuelles sur des dossiers ponctuels avec d'autres gouvernements qui seraient une branche ou une autre branche de l'islam. Il faut vraiment que les musulmans prennent conscience que tant qu'il n'y aura pas une solidarité, un sens d'unité, ils n'arriveront pas à faire valoir leurs droits, parce que la dispersion des agendas fait qu'effectivement, et comme vous le soulignez, on assiste à des fracturations, tantôt sur des accords dits de normalisation, qui voient en fait la cause principale qui devrait être poursuivie être complètement éparpillée aux quatre vents. Mais je dirais même que dans le cas de la Jordanie, si on se rappelle des événements d'il y a un an, et c'est ça un peu le problème, c'est que les gens n'ont pas de mémoire, mais cette tentative de putsch contre le roi trouve ses racines aussi dans un contexte qui semblerait avoir ses origines eu égard à justement les accords qui avaient été conclus en 1994 avec l'entité sioniste, parmi lesquels on trouvait une clause qui laissait entendre que le roi Abdallah était le garant du troisième site le plus sacré d'Islam. Or, on a pu découvrir par la suite que Riyad, quelque part, lorgnait sur ce statut et souhaitait incorporer, ajouter aux deux mosquées de Mecca et Médina le sanctuaire d'Al-Aqsa. Donc, vous voyez, il faut comprendre un petit peu tout ce qui se passe et voir dans ce contexte-là comment il est difficile, lorsque des événements comme ceux qui se sont produits à Al-Aqsa ces derniers jours se produisent, de mobiliser de manière uniforme une réponse qui soit de nature dissuasive pour le régime d'occupation. En l'absence d'une telle réaction, d'une telle coordination entre les différentes capitales du monde musulman, il est difficile d'imaginer que le régime sioniste puisse se sentir un tant soit peu mis en garde, à tout le moins.
Merci beaucoup. Monsieur d'Ortiguier, je viens de le dire tout à l'heure, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés palestiniens depuis 1967, Michael Link, a qualifié d'apartheid de cette politique suivie par le régime israélien contre le peuple palestinien. Monsieur d'Ortiguier, en dépit, si vous voulez, de cette conclusion faite par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés depuis 1967, pourquoi, d'après vous, cette absence, monsieur d'Ortiguier, de réaction de la part de ce qu'on appelle la communauté internationale? Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de ce passage à l'action pour contraindre le régime israélien à mettre immédiatement un terme à cette agression contre le peuple palestinien, ces actes de provocation contre la mosquée Al-Aqsa, M. d'Ortiguier?
C'est que l'influence des sionistes en Europe, par exemple, et au sein des deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, bon, l'Angleterre, les Arabes, cette présence, cette influence des sionistes, ce barrage des sionistes, disons, tient à la crise financière continue. Je crois que là, il y a, de la part des sionistes, il y a, disons, l'usage d'une arme redoutable, et ils s'en servent depuis leur création, disons, la création de l'État. Ils vivent de crises extérieures. Ils ont vécu sur la guerre froide, voyez-vous, et maintenant ils vivent sur la crise ukrainienne, sur d'autres crises, voyez-vous. Et tant qu'il n'y a pas d'apaisement des crises, jamais l'Europe ou les grandes puissances n'adopteront une position de justice. Position qui était réclamée, du reste, par les Nations Unies quand Israël, j'ai eu l'occasion de le dire quelquefois, s'est présenté en 1948-1949.
Merci.
Il s'est présenté à condition, je le répète, je terminerai là-dessus, qu'il résolve le problème palestinien. Or, celui-ci, il n'en tient pas compte. Ce sont des fanatiques, voyez-vous, qui sont poussés par une passion malsaine.
Maître de Velay, Amnesty International a aussi réagi à cette conclusion du rapporteur spécial de l'ONU, Saleh Higazi, directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré: les conclusions du rapporteur spécial sont importantes, arrivent à point nommé pour conforter le consensus international croissant selon lequel les autorités israéliennes se rendent coupables d'apartheid contre la population palestinienne. Maître de Velay, il y a désormais ces organes internationaux, ces institutions internationales qui commencent sérieusement, si vous voulez, à mettre en cause la politique anti-palestinienne du régime israélien, n'est-ce pas, Maître de Velay?
On pourrait le penser, effectivement, sauf que ce soit le rapporteur spécial. Rappelons pour nos auditeurs que le rapporteur spécial est nommé pour une période de 8 ans, qu'il est un bénévole, qu'il n'est pas rémunéré par les Nations Unies, donc il a une certaine liberté de parole et une certaine indépendance, et en général c'est quelqu'un qui est issu du monde académique, donc on peut penser qu'il a fait preuve d'une certaine rigueur dans son approche du dossier. Mais les rapports qui sont ensuite fournis n'ont pas, comme on dit, les dents. Il faut donner des dents au système juridique international, et faire des rapports et les compiler, les accumuler les uns sur les autres au fil des années, sans prendre les mesures nécessaires, ne va pas en soi, j'allais dire, faire avancer une solution crédible. Pour Amnesty International, quelque part, ça ne mange pas de pain pour eux de reprendre les conclusions qui sont après tout les conclusions d'un expert de l'ONU. Donc ils ont cette couverture, si je puis dire, au cas où ils seraient attaqués par les groupes de pression sionistes. Mais rappelons quand même pour nos téléspectateurs que dès 2006, l'ancien président américain Jimmy Carter avait dans un ouvrage publié cette année-là, conclu que le régime israélien était un régime d'apartheid. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais encore faut-il maintenant que les institutions internationales se dotent de moyens qui soient de nature à faire rendre gorge aux violations répétées et continues de ce régime.
Et comment Maître Develay, excusez-moi de vous couper la parole. Là, vous soulignez en fait un point important. Vous dites que voilà, les institutions internationales doivent se doter des moyens pour en fait lancer, si je vous ai bien suivi, une action, si vous voulez, judiciaire, des poursuites judiciaires contre le régime israélien. Mais comment le faire, Arnaud Develay?
Je pense que cela ne peut pas se faire sans une réforme profonde des institutions onusiennes. Si ce régime, cette architecture doit perdurer dans le temps, il faut déjà se débarrasser du principe du deux poids deux mesures et s'en tenir à des critères objectifs et probablement essayer de remettre en cause le droit de veto qui peut caractériser le statut de membre permanent au sein du Conseil de sécurité, afin que l'Assemblée générale, par exemple, puisse elle-même voter en faveur de certains textes appelant à des sanctions économiques ou à des mesures de rétorsion qui seraient à déterminer, sans que cela puisse faire l'objet d'un droit de veto et donc intrinsèquement d'un blocage. Or, on en est bien loin, et cette question de la réforme de l'appareillage onusien, si je puis dire, a été sur la table depuis au moins une trentaine d'années, la fin de la guerre froide, et est malheureusement toujours restée lettre morte.
Monsieur Dortiguier, très très rapidement, est-ce que vous aussi vous estimez ce dont on a besoin, c'est la refonte, si vous voulez, de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité?
Et bien sûr, parce que c'est ce Conseil de sécurité des Nations Unies est un résultat de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est la dictature des vainqueurs. Voyez-vous, je ne trouve pas d'autre mot. Et que donc, ils ont le droit, finalement, d'imposer au monde leur propre intérêt particulier. C'est donc une réforme, bien sûr, des Nations Unies qu'il faut préparer. Malheureusement, je ne crois pas possible, surtout dans l'atmosphère actuelle, d'affrontement en Europe.
Monsieur Pierre Dortiguier, analyste politique et spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission Le Débat depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud Develay, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
La fin de la domination occidentale. Les sanctions occidentales contre la Russie, décidées unilatéralement par Washington, sont présentées comme une juste punition d'une pseudo-agression contre l'Ukraine. Les États-Unis, qui ne participèrent que tardivement aux guerres mondiales et ne subirent aucune perte sur leur territoire, sont sortis vainqueurs des conflits mondiaux. Héritant des empires européens, ils ont élaboré un système de domination faisant d'eux le gendarme du monde. Cependant, leur hégémonie était fragile et ne pouvait résister au développement de grandes nations. Et dès 2012, des politologues commencèrent à décrire le piège de Thucydide par l'analogie avec l'explication que le stratège grec avait donnée des guerres opposant Sparte à Athènes. Selon eux, la montée en puissance de la Chine rendait aussi inévitable l'affrontement avec les États-Unis, constatant que si la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, la Russie est devenue la puissance numéro un au niveau militaire et Washington décida de les combattre l'une après l'autre. C'est dans ce contexte qu'intervient la guerre en Ukraine. Washington la présente comme agression russe, adopte des sanctions et contraint ses alliés à les prendre aussi. La première remarque qui vient à l'esprit, c'est que les États-Unis, se sachant inférieurs militairement mais supérieurs économiquement, ont décidé de choisir leur champ de bataille. Cependant, l'analyse des forces en présence et des mesures prises dément cette lecture des événements. Le système économique mondial a été créé par les accords de Bretton Woods en 1944. Il visait à instaurer un cadre pour le capitalisme au-delà de la crise de 1929 dont le nazisme n'avait pas été la solution. Les États-Unis imposèrent leur monnaie comme référence convertible en or et ni l'Union soviétique ni la Chine ne participèrent à cette conférence. En 1971, le président Richard Nixon décida d'en finir officieusement avec la parité de dollars en or. Il peut ainsi financer la guerre du Vietnam. Concrètement, il n'y avait plus de taux de change fixe. La mesure ne fut officialisée qu'une fois la guerre finie en 1976. Et c'est aussi à ce moment-là que la Chine fit alliance avec les multinationales anglo-saxonnes. La communauté européenne, ancêtre de l'Union, s'adapta en encadrant donc les taux de change désormais flottants en 1972, le serpent monétaire, puis en créant l'euro. À partir de 1981, les États-Unis commencent à laisser filer leurs dettes. Elle passa de 40% de leur PIB à aujourd'hui 130%. Ils tentèrent de globaliser l'économie mondiale, c'est-à-dire d'imposer leurs règles aux pays solvables et de détruire les structures étatiques des pays restants, donc la stratégie Rumsfeld-Zebrowski. Pour payer leurs créances, ils imprimèrent des dollars, espionnèrent les sociétés de leurs alliés et volèrent toutes les réserves de deux gros états pétroliers, à savoir l'Irak et la Libye. Personne n'osa rien dire, mais à partir de 2003, le système économique des États-Unis n'était plus celui qu'ils prétendaient être. Officiellement, ils étaient toujours libéraux, mais chacun pouvait constater qu'ils ne produisaient plus ni leur nourriture ni leurs marchandises de première nécessité, donc, et qu'ils ne se nourrissaient plus que de rapines. L'économie états-unienne, qui représentait un tiers de l'économie mondiale lors de la dissolution de l'URSS, n'en est plus qu'un sixième. De nombreux États anticipent la fin des règles de Bretton Woods et réfléchirent à une nouvelle donne. En 2009, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, bientôt rejoints par l'Afrique du Sud pour l'Afrique, créent les BRICS. Ces pays se sont dotés d'institutions financières qui, à la différence du FMI et de la Banque mondiale, ne conditionnent pas leurs prêts à des réformes structurelles ou à des engagements politiques d'alignement sur Washington. Ils préfèrent investir en leasing, le pays hôte devenant propriétaire de l'investissement lorsque celui-ci est rentabilisé. En 2010, la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie, bientôt rejoints par l'Arménie, fondèrent l'Union économique eurasiatique. Ces pays frontaliers instaurèrent une zone de libre-échange avec l'Égypte, la Chine, l'Iran, la Serbie, Singapour et le Vietnam. Ils pourraient être rejoints par la Corée du Sud, l'Inde, la Turquie et la Syrie. En 2013, la Chine débuta donc son vaste projet de nouvelle route de la soie. L'année suivante, lorsque son PIB dépasse celui des États-Unis en parité de pouvoir d'achat, Beijing créa la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Puis en 2020, il encadra les capitaux étrangers. En 2021, l'Union européenne imagina sa passerelle mondiale pour concurrencer la Chine et imposer son modèle politique. Mais cette exigence fut vécue comme un sursaut colonial par de nombreux pays et fit l'objet d'un rejet massif. Progressivement, le bloc russe et le bloc chinois se sont rapprochés grâce au projet commun de grand partenariat eurasiatique global en 2016 dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il s'agit de développer l'ensemble de cet espace en y créant des voies de communication équilibrées sur les bases idéologiques définies par le Kazakh sultan Nazarbayev. Donc l'inclusivité, l'égalité souveraine, le respect de l'identité culturelle et sociopolitique, l'ouverture et la disponibilité à intégrer d'autres ensembles. La tentative de Washington de détruire cet ensemble en formation n'a aucune chance d'aboutir et il est frappant de constater que l'attaque économique a débuté non pas avec l'opération militaire russe en Ukraine, mais deux jours avant. Elle se porte avant tout contre les banques russes, les milliardaires russes et l'industrie gazière russe et pas du tout sur le nouveau système de communication eurasiatique. Enfin, elle vise à exclure la Russie des organisations internationales, mais ne concerne pas les États qui refusent de condamner la Russie. Par conséquent, elle va la pousser dans les bras de Beijing. En d'autres termes, les États-Unis n'isolent pas la Russie, mais ils isolent l'Occident, 10% de l'humanité, du reste du monde, soit 90% de l'humanité. Et la réponse du reste du monde, c'est un phénomène extrêmement surprenant à observer. Les États-Unis sont parvenus à faire basculer une majorité d'États de leur côté, mais ces États sont les moins peuplés du monde. Tout se passe comme s'ils n'avaient pas de moyens de pression sur des pays capables d'indépendance. Du fait des actions unilatérales des Anglo-Saxons et de l'Union européenne, le monde est en train de se diviser en deux espaces hétérogènes. L'ère de la globalisation économique est terminée, les ponts économiques et financiers sont brisés un à un. Réagissant avec rapidité, la Russie a convaincu ses partenaires du BRICS de stopper leurs échanges en dollars et de créer à terme une monnaie virtuelle commune pour leurs échanges. Et d'ici là, ils procéderont en or et cette monnaie devrait être basée sur un panier des monnaies du BRICS pondéré en fonction du PIB de chaque État membre et sur un panier de matières premières cotées en bourse. Ce système devrait être beaucoup plus stable que l'actuel. Surtout, la Russie et la Chine apparaissent comme beaucoup plus respectueux de leurs partenaires que les Occidentaux. Jamais ils n'exigent de réformes structurelles, ni économiques, ni politiques. L'affaire ukrainienne donc montre aux yeux de tous que Moscou ne cherche pas à prendre le pouvoir à Kiev et à occuper l'Ukraine, mais à repousser l'OTAN et à combattre le bandériste, donc les néo-nazis. Donc rien que de très légitime, même si la méthode est brutale. Dans la pratique, on assiste à la fin de 4 siècles de domination des Occidentaux et de leurs empires. C'est un affrontement entre des manières de penser différentes. Les Occidentaux ne pensent plus qu'en termes de semaines. Avec cette courte vue, ils peuvent avoir l'impression que les États-Unis ont raison et les Russes tort. Au contraire, le reste du monde pense en décennies, voire en siècles. Et dans ce cas, il ne fait pas de doute que les Russes ont raison et les Occidentaux, dans leur ensemble, ont tort. Par ailleurs, les Occidentaux rejettent le droit international. Ils ont attaqué la Yougoslavie et la Libye sans autorisation du Conseil de sécurité et ont menti pour attaquer l'Afghanistan et l'Irak. Ils n'acceptent que les règles qu'ils édictent. Et au contraire, les autres États aspirent à un monde multipolaire dans lequel chaque acteur penserait en fonction de sa propre culture. Ils ont conscience que seul le droit international permettrait de préserver la paix dans le monde tel qu'ils le rêvent. Plutôt que d'affronter la Russie et la Chine, les États-Unis ont choisi de se replier sur leur empire, d'isoler l'Occident afin d'y maintenir leur hégémonie. Depuis 2001, tous les dirigeants mondiaux considèrent les Occidentaux et particulièrement les États-Unis comme des prédateurs blessés. Ils n'osent pas les affronter et cherchent comment les accompagner gentiment au cimetière. Nul n'avait envisagé qu'ils s'isoleraient pour mourir.